voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Barbara Hendrix. Ce soir, la naissance d'une voix.
Vous avez eu cette chance, Barbara Hendrix, d'avoir rencontré des adultes, disons-le, des enseignants, des hommes ou des femmes de savoir, qui sont tombés au beau moment. Ça va du professeur Glenn, en passant par Porter, jusqu'à, évidemment, on y reviendra, Jeannie Tourelle. Et ces rencontres, toutes décisives en fin de compte, notamment la première, celle du professeur Glenn, elle tombe à un moment où vous n'avez encore rien décidé de ce que vous vouliez. Vous en étiez encore à faire des concours pour devenir pom-pom girl, jouer au foot ou aller passer du temps dans le monde sportif. Vous étiez totalement ailleurs. Est-ce qu'avec le recul, vous imaginez ce qu'était cette époque-là où vous étiez dans l'indécision ?
Moi, je n'étais pas dans l'indécision. Moi, j'étais déjà très jeune. J'ai commencé l'école à l'âge de 5 ans, comme j'avais mon anniversaire en novembre, dans la classe de ma mère. Et j'étais vraiment tellement terrible parce que je savais lire, j'avais fait tout, je faisais que je s'aimais les États-Unis dans sa classe. Elle avait décidé de me mettre dans la classe au-dessus parce que, bon, c'était dans une école rurale. Il avait une classe de première classe, deuxième, troisième. Et, bon, elle ne pouvait pas me mettre dans une autre classe de premier parce qu'il n'avait pas. Ils ont décidé, OK, comme elle s'ennuie ici, parce que moi, je me promenais et je corrigeais les autres. J'étais épouvantable. Et bon, ma mamie, elle dit, bon, elle a besoin de challenge, on va les monter dans la classe. Ça veut dire que j'avais toujours 2 ans de moi, de tout le monde dans ma classe. Et moi, j'étais à l'âge de 12 ans, je pensais à des choses que les autres filles de 12 ans et pas les filles de 14 ans qui étaient dans ma classe. Mais j'étais très ouverte, très curieuse, je dis. Et j'avais chanté l'année d'avant, quand j'étais toujours... C'était à l'entrée du collège. Et avant le collège, c'est pas la maternelle, non, c'est l'âge...
L'école primaire.
Primaire.
L'école primaire
et j'ai terminé primaire, j'avais dit que j'avais 12 ans pour aller au collège où ils avaient junior high school, 14 ans. Et j'avais chanté, on a chanté dans un petit musical, je crois que Cendrillon. Et c'est moi qui l'avais chanté. Et Mrs. Whitfield, qui était c'est l'intitulatrice, qui avait dit à Monsieur Glenn, parce que je changeais l'école, c'était une autre école maintenant, c'était junior high school. Il a dit, j'ai une fille, elle est jeune, mais elle a une voix, est-ce que vous pouvez l'écouter? Et bon, parce que je n'avais pas le droit d'être membre du chœur, parce que le chœur était pour la high school, le lycée. C'était dans le même meuble, mais je le chantais pour lui. Il avait dit, bon, les sopranes sont assez faibles et elle est jeune, mais elle peut chanter contre ut facilement. Ah, et là, il m'a pris dans le chœur. Ah, et là, je me trouvais avec les filles de 16 ans. C'était pas, il n'a pas de décision. Non, c'était pas d'indécision. Il n'a pas de décision du tout. Je l'ai juste suivi. Je dis, voilà, OK, très bien. S'il m'accepte, formidable, parce que j'aimais chanter tout court.
Et là, vous avez poussé un contre-ut?
Non, mais il m'a fait chanter une petite gamme. Ouais. Moi, je n'ai jamais étudié la musique, jamais étudié le chant, mais il a dit, mais chantez ça. Il a joué une gamme, et j'ai chanté juste contre-ut sans savoir qu'est-ce que c'était. Et voilà, je dis, ben, c'est bien, mais c'était à côté de mes études.
Une voix de soprane avec l'âme d'un contralto.
Je crois plutôt la voix d'une belle soprane, c'est sûr, c'est que je n'ai pas de voix d'une soprane.
Quelle conscience vous avez de cette disposition-là, d'avoir en face de vous un adulte qui dit « on a un talent en face de nous ».
D'abord, ce n'était pas dit comme ça.
Certainement, mais je me mets dans la tête de quelqu'un de 12-14 ans.
Oh, je trouvais ça bien. Il a dit, comme je dis, c'était simple. J'adorais chanter. Moi, je ne peux pas imaginer ma vie sans le chant. Je peux imaginer ma vie sans avoir eu une carrière, parce que j'aurais fait autre chose. Mais j'aurais continué de chanter dans un chœur, avec des amis. Mmh. C'est nécessaire pour moi de chanter. Et j'ai la chance parce que pendant toute mon enfance, même quand je chantais dans le chœur et je chantais des solos, c'était pris comme quelque chose de naturel. Mais c'est normal, elle chante. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est formidable parce que je suis restée d'abord avec cette joie de chanter et aussi très humble en même temps.
Arthur Porter, c'est également un personnage qui tombe au bon moment. D'abord parce que vous êtes babysitter et vous vous occupez de ses enfants. Vous écoutez du jazz parce que c'est un grand collectionneur de disques, pendant que lui est à l'extérieur.
Oui, il est aussi un grand musicien de jazz.
Il est un grand musicien de jazz. Bref, c'est une chance inouïe. Je suppose que ça n'arrive pas non plus par hasard. Mais en même temps, là, vous continuez à cultiver cette curiosité qui vous est permanente et qui fait que, on en parlera un peu plus tard, mais vous aimez tous les répertoires. Donc là, c'est le jazz. Avant, c'était le négro spirituel. Après, ça va être évidemment Mozart, Schubert, Strauss et compagnie. Mais vous avez une espèce de boulimie de musique et vous ne choisissez jamais.
Je crois que ce qui m'a aidé avec ça, c'est que j'avais jamais eu personne, M. Glenn ou M. Arthur Porter, qui m'a dit « c'est pas la bonne musique ». Je dis dans le chœur, dans l'école, on avait toujours chanté un peu des spirituals, bien sûr des spirituals, mais aussi le Broadway musical, même des cantates de Bach, des parties de Messi à Noël. Mais personne n'avait dit, ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et le jazz, parce que, avec Arthur Porter, parce que comme lui, il était grand musicien de jazz, pianiste, il nous avait fait aussi chanter des arrangements de jazz. Et comme j'avais jamais dans ma tête d'avoir des frontières entre les différents styles de musique, j'ai gardé cette ouverture vers toutes les musiques.
Et parfois, on vous le reproche encore aujourd'hui de ne pas avoir, j'allais dire, une ligne de conduite musicale, ou au contraire, on vous jalouse d'être aussi à l'aise dans ces répertoires très différents.
Oh, je sais pas, mais vous savez, à mon âge, ce qu'est dit les gens, même plus jeune, mais aujourd'hui, moi, je pense pas à ça. Quand j'ai commencé d'avoir cette carrière que j'ai jamais planifiée, j'ai réalisé que c'est l'importance de vraiment rester très fidèle à moi-même. Moi, je n'ai pas fait le talent que j'ai. J'ai fructifié le talent que j'ai reçu. Mais ce n'est pas moi qui a choisi d'avoir ça comme talent. Et moi, j'ai suivi le destin qui est présenté à moi, de rencontrer les gens comme déjà adolescente, mais de garder autour de moi, je dis, de regarder plus loin des gens, des critiques, qu'est-ce que les gens allaient dire sur ce que je fais, parce que je dis, après tout, à la fin de ma vie, il y a juste une personne en face de moi, c'est moi-même.
Qui est Arthur Porter, ce chef de chorale de Little Rock?
C'était le chef de notre chœur au lycée, à Horace Mann High School. Et je l'ai rencontré mon premier jour de l'école, parce que le travail de mon père était de changer d'église aussi dans son travail tous les 2-3 ans. Et ça veut dire que moi, je devais changer l'école des fois, de ville, l'école. Ah, et ils ont fait cette décision, ils ont leur conférence toujours au mois de fin octobre. Ah, ça veut dire que des fois, je devais changer l'école, que j'ai juste commencé, qui était le cas parce qu'on habitait à Memphis, Tennessee. Et pour la première fois, j'allais organiser une fête pour mon anniversaire. Et là, mon père, il revient de son conférence pour dire, on va déménager. On va retourner en Arkansas, on va à Little Rock. Oh là, plus malheureuse, vous ne pouvez pas imaginer.
La déprime.
Ah oui, parce que c'était, on devait partir, je crois, le jour avant mon anniversaire. Ça veut dire pas de fête, je connaissais personne à Little Rock. En plus, moi, comme je trouve que Memphis était une grande ville qui est là, j'allais retourner vers les campagnards. De Arkansas. Bon, premier jour de l'école, j'arrive à Little Rock Et j'ai noté que je voulais faire partie de chorale. Mais il a dit, il faut faire une audition. Et c'est bon, tout le monde avait fait au début de l'année. Et bon, voilà, premier jour d'école, en nouvelle école, avec mauvaise attitude, vraiment. Je regardais autour de moi, ces campagnards. Et moi, je viens de Memphis. Et tout était tellement cool là où j'étais. Ici, c'est rien. Avec une attitude, je peux pas imaginer. Et tristesse, ben, c'est bon, j'avais 14 ans, j'avais juste 15 ans. Et bon, je m'assois parce que je tente qu'à la fin, il allait m'appeler pour faire cette audition, pour me demander. Et bon, je chantais avec les autres et après, il a dit, ben, maintenant, on va faire un programme pour l'école pour Thanksgiving la semaine prochaine. Et voilà, on va chanter ça et ça et ça. Il a ici, dedans, il a solo pour soprane. Et bon, tous les sopranes qui avaient l'habitude de chanter les solos ont fait une audition pour le chanter. Et moi, j'étais juste là, je regardais autour. Et il m'a regardé. « Mais est-ce que vous avez envie de laisser aussi ?» Je dis, devant tout le monde, je dis, « Oui, pourquoi pas ?» Et comme je l'ai entendu, la mélodie, parce qu'il avait 4 ou 5 qui avaient déjà chanté, je l'ai chanté. Et c'est moi qui t'ai choisi. Premier jour d'école, voilà. How to make friends and influence enemies. Ça veut dire que, bon, cette première année, mes meilleurs amis étaient les mezzo-sopranes. Pas les sopranes. Mais il m'a pas fait chanter souvent des solos parce qu'il m'a dit une chose. Il a dit, quand toi, tu chantes, les élèves doivent trouver, ah, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est Barbara qui va chanter le solo aujourd'hui. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que je dis, voilà, il faut pas faire trop. Il faut être désiré, mais quand même, il m'a jamais essayé de me pousser vers la musique. Bon, il faut dire que j'avais 15 ans, 16 ans. 16 ans quand j'ai quitté, quand j'ai eu ma diplôme de high school, de lycée. Peut-être c'est à cause de ça. Moi, j'aimais beaucoup le jazz, mais comme j'étais trop jeune pour chanter avec lui, parce qu'il jouait dans les clubs où il avait l'alcool, je pouvais pas entrer. Mais c'était très important qu'il avait mis en valeur mon talent.
Et quand vous l'avez revu une dizaine d'années après, puisque vous êtes...
J'ai vu quelques années après, quand j'ai terminé mes études à New York, parce que je suis retournée faire une émission à la télévision qu'il avait sur la télévision publique qui concernait la musique de la communauté noire, du jazz, de spiritual. Et il avait des musiciens, il invitait les musiciens noirs. Et je crois que dans le livre, il a une photo de nous, moi avec un énorme afro, qui est chanté avec lui, qui a joué pour moi. Mais après ces années-là, je n'ai pas vu il y a au moins une vingtaine d'années. Et je suis venue visiter mes parents, c'était à Pâques, avec mes enfants là, pour la première fois. Et bien sûr, je suis allée le voir.
Et alors, c'était...
C'était fantastique, mais il était malade. Bon, parce qu'il avait fumé comme une cheminée quand il était jeune, parce qu'avant de savoir que c'était dangereux, tout le monde fumait, les médecins même.
Et vous avez reparlé de ces moments décisifs, au fond, puisqu'il
oui,
a...
Oui, bien sûr, il m'a
il
dit...
Il a quand même...
En plus, il m'a dit, moi, je même qu'on ne s'est pas vu, je te suivais tout le temps, les choses que tu fais, et je suis tellement fière. Et il a dit, mais quand je te regarde, je vois dans tes yeux le même éclat que tu avais quand tu avais 15 ans.
Quel hommage.
Et que tu n'as pas changé, tu es restée cette petite fille pleine de curiosité et d'envie d'apprendre.
Alors, entre M. Porter et Miss Tourelle, cette grande cantatrice qui a été finalement celle qui a été alors la décisive sur votre carrière, il y a eu ce M. Smith, tout simplement parce que il existe un lieu dans le Colorado qui s'appelle Aspen, qui est une université d'été consacrée à la musique. Et là, vous rentrez de plein pied dans le monde des grands.
Bon, après terminer mes études, bon, il avait l'étude du lycée, Bon, je suis allée à l'université, mes études universitaires. Et là, bon, j'ai commencé d'abord dans un collège de religieux de l'église, mais qui m'a emmenée vers l'université de Nebraska. Nebraska Wesleyan University, d'abord, qui est aussi une université méthodiste. Et quand j'étais là sur un programme d'échange parce que les présidents des deux écoles ont été, les deux pasteurs ont décidé que pour aider dans les réconciliations après la lutte pour les droits civiques et les lois, civil rights laws qui étaient passées, qu'on devait essayer d'apprendre à vivre ensemble. Et ils ont trouvé que ça sera bien d'avoir un programme d'échange pour la moitié d'année, que les enfants blancs qui allaient être dans le collège où j'étais, qui étaient noirs, pour faire cet échange. Et j'étais choisie d'être parmi les quatre élèves qui étaient choisis pour faire ça. Je n'ai pas chanté dans le chœur parce que la dame qui était la directrice trouvait que ma voix était tellement différente dans le timbre que ça ne mélangeait pas. Mais elle m'a demandé de venir chanter les solos de temps en temps avec le chœur. Voilà, et bon, en plus, j'avais des études en physique, mathématiques. Et pour les premières fois, je me trouve dans une université où, dans le laboratoire de chimie, moi, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai passé beaucoup de mon temps avec ces études et j'ai chanté un peu dans le chœur, mais je chantais aussi à l'église méthodiste pour gagner un peu d'argent de poche parce que j'avais une bourse pour mes études. Mes parents n'avaient pas de l'argent. Et dans cette église, il avait très peu de noirs, mais il avait une dame que je rencontrais et elle organisait une réunion, je ne sais pas quoi, à l'université. Elle m'a harcelée pendant des semaines de me demander si je pouvais pas venir chanter au début. Et j'ai dit non, mais c'est la période des examens et vraiment j'ai dit OK. Je viens. Je fais le premier, j'ai 15 minutes au début. Je ne fais pas la fin parce que j'ai absolument besoin de préparer les examens. Bon, j'ai fait. Et dans cette réunion, il y avait un avocat, Monsieur Richard Smith, qui m'a entendu et qui avait envoyé une lettre. Ah, parce que là, j'ai pris aussi comme un cours extra, des leçons de chant pour la première fois, juste pour m'amuser. Et voilà, il a écrit au professeur pour lui demander si j'accepterais une bourse pour aller étudier au Festival de musique de Aspen, Colorado, là où il avait une académie de musique. C'était pendant l'été. Et là, je dis, ah oui, mais pourquoi pas, parce que Colorado, bon, c'est pas comme aujourd'hui, c'était pas du tout les stars d'Hollywood, mais quand même, c'est la montagne, et moi, je commençais mon amour pour les montagnes qu'on habitait dans le Tennessee, dans Chattanooga, on avait les Blue Ridge Mountains, et je dis, mais ouais, parce que mon professeur de chimie organique m'a proposé d'aller faire la recherche dans le South Dakota, ou le North Dakota, Vermilion South Dakota, je crois, c'est South Dakota. Et je dis donc, Complex Iron Substitution Research. Je dis, je trouve que Colorado, ça me semble beaucoup plus rigolo que ça. Et j'ai accepté. Ce monsieur Smith, qui avait un de ses meilleurs amis, était le doyen de l'école de la Juilliard School de New York, où enseignait Jenny Terrell. Et il a discuté avec lui qu'il a proposé Jenny Terrell comme professeur pour moi. Voilà, j'arrive, et c'est là où je rencontre cette dame qui est venue, quelqu'un de très important dans ma vie, et qui, après 9 semaines d'études avec elle, qu'elle m'a proposé de m'accepter comme élève à la Juilliard School, si j'étais acceptée par l'école. C'était pas pour tout de suite, parce que j'avais encore une année pour terminer, pour avoir mes universités. Et je suis retournée faire cette dernière année et de préparer l'audition pour le Juilliard School. Et c'est là le rôle qui était joué par Monsieur Smith et de ses amis, dont certains je connais même pas le nom parce qu'ils m'ont jamais dit, était très important. C'est pas quelque chose que je sollicitais moi, j'en avais pas dans ma tête de faire la musique. Mais il avait quelque chose qui je saute un peu, qui se passait pendant cette demi-année de semestre, on dit, d'échange. C'est que comme j'ai pris des leçons électives de chant, il avait d'autres élèves qui étaient des élèves de musique, qu'ils ont inscrit dans un concours de chant de Metropolitan Opera. Et bon, il y a une fille qui m'a dit, maman, je vais le faire, tu vas le faire, viens avec nous, ça peut être amusant. Je dis, ok, je le fais. Et bon, j'avais fait, et moi, je l'ai gagné pour l'État de Nebraska. Bon, tout le monde était, parce que j'étais pas étudiant de musique. Et j'étais obligée de me préparer pour aller pour les régionales qui étaient dans le Minnesota. Que heureusement, je n'ai pas gagné parce que je n'étais pas du tout préparée pour aller sur la scène de Metropolitan de New York pour faire partie d'un concours. Je ne savais même pas de ce quoi que je chantais, mais j'ai appris ça d'un disque de Leontine Price, de la musique, parce que je l'aimais. Je savais même pas que si c'était pour ma voix. Ah, parce que jusque-là, je chantais les choses, j'écoutais un peu, et je dis au professeur qui s'appelle Monsieur Bennett, ah oui, j'aime ça, c'était, est-ce que je peux le chanter? Oui, on va l'étudier. Et pour lui aussi, d'avoir un élève qui pouvait chanter, mais qui, il n'avait pas besoin de préparer pour son diplôme. C'était, on s'amusait, nous deux. Et finalement, j'avais aussi des gens à Lincoln, Nebraska, qui étaient mes fans. Des dames qui faisaient partie de ce comité de Metropolitan Opera. Et bon, elle faisait partie aussi des gens qui ont donné l'argent à Monsieur Smith. Et c'est comme ça qu'une année après, j'étais dans le train de Lincoln, Nebraska, qui allait m'emmener jusqu'à New York, parce que j'étais acceptée à la Juilliard School avec bourse pour mes études. Et là a commencé ces 5 ans, avec Jenny Turrell, parce que quand j'ai terminé mes études en 73, elle est morte en novembre, le 22 novembre en 73. Et bon, j'avais ces 5 ans avec elle qui étaient... Moi, je ne peux pas imaginer qui je serais artiste sans avoir eu cette rencontre avec elle. Parce qu'elle était plus qu'un... professeur de chant. Ce n'est pas qu'elle m'a appris à chanter, parce que j'avais une voix naturelle, comme elle. Ça veut dire qu'on avait le même langage. Elle était russe, elle était juive, elle était réfugiée. Elle est venue enfant de la Russie, en Europe. Elle a commencé sa carrière ici en France, à l'Opéra Comique. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle avait quitté, sur un des derniers bateaux, quitté la France. Je ne sais pas, elle a passé par le Portugal pour... Et c'est pas clair pour arriver aux États-Unis comme réfugiée de la guerre.
C'est elle qui vous a fait aimer le français et la France?
La première fois que je vis en France, c'était avec elle. Bon... Non, moi, je viens avant elle, parce que moi, je viens sur un sorte de charter. Et qu'on devait partir avant le 30 mai pour avoir un prix très bas de voyage. Et bon, je suis arrivée avant elle à Paris, via Luxembourg. Et j'arrive en train avec d'autres jeunes. J'étais dans une auberge de jeunesse d'abord. Et bon, quand ils ont dit, voilà, vous pouvez pas rester plus longtemps, j'ai trouvé un petit hôtel. Mais qui était tellement mauvais que je ne voulais pas, quand elle est arrivée, parce qu'elle avait son hôtel sous le Faubourg Saint-Honoré.
C'était une grande dame déjà, c'était
oui,
une grande
oui.
dame.
Ah, et bon, si elle avait su là où je logeais, alors elle m'a pris dans son hôtel, et bon, je voulais pas ça, parce que je voulais rester un peu indépendante. Mais c'est avec elle que j'ai vu un peu Paris. On est allé au Jeu de Pommes.
Vous allez à la Coupole, elle vous a invité à manger à la Coupole.
À la Coupole avec ses amis russes. Bon, elle parlait russe et moi, je mangeais pour la première fois des asperges blanches et des fraises de bois avec crème fraîche, mon Dieu.
Revenons à l'université d'été musicale, puisqu'au fond... tout s'est vraiment déclenché à ce moment-là. Sans cette rencontre avec Jeannie Tourel, sans cette manière d'appréhender la musique telle que vous vouliez la chanter, ça s'est passé là-bas.
Bon, d'abord, mes souvenirs, c'est que je me réveille le matin et j'entends la musique de partout. Les violonistes, les flûtistes, tous les gens, sauf les pianistes, parce qu'ils n'avaient pas leurs instruments dans nos chambres, c'était dans le dortoir. Les chanteurs qui chauffaient leur voix, c'était extraordinaire. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé mon amour pour la musique de chambre, parce que tous les vendredis, il avait les concerts de vendredi soir. Et cette année-là, il avait le quatuor Juilliard qui était en résidence. Et moi, je m'étais derrière, tout derrière, pour écouter ces concerts. Je dis, tout que j'ai entendu cet été n'était pas connu. Mais je n'étais pas étrangère, cette musique. Je n'avais pas de connaissance de cette musique.
Quel compositeur vous avez connu à ce moment-là ne connaissiez pas?
Tout. Je dis, il avait un ténor qui avait chanté Schumann. Dichtlieb, comment on dit en français, les chants d'un poète, je crois, en français. C'était les poèmes de Heine, et qui était, c'était une photocopie, que j'ai gardé des années, parce que je trouvais la poésie magnifique. Il avait la bohème, j'ai chanté dans le chœur, la bohème, et je lui dis,
j'aimerais bien jouer Mimi un jour.
Non, mais je dis, mais si un jour j'allais faire ça, j'aimerais chanter ce rôle, parce que la musique est tellement belle, c'est très émouvant. Et j'ai chanté la seule fois avec Jeannie Tourel, dans le chœur, quand elle avait chanté la deuxième symphonie de Mahler, chanté le solo de mezzo-soprano. Et voilà, en plus, il avait les montagnes. Il avait la beauté de la nature. C'est extraordinaire, les montagnes, les rocheuses. Et à la fin des 9 semaines, quand elle m'a dit ça, vous avez du talent. Mais aussi, il faut que j'explique, je ne savais pas vraiment comment préparer un leçon de chant. Parce qu'à l'université, comme je dis, je m'amusais. Je n'étais pas un étudiant de musique. Je n'avais pas besoin de me réussir. Il n'avait pas besoin de me préparer pour un examen. Moi, je chantais les choses. Je venais, il m'a appris, je chantais. Mais je n'avais pas même le protocole pour préparer un leçon. J'arrive chez elle. Et j'ai appris tout de suite que d'abord, je devais être préparée, que c'est pas elle qui allait m'apprendre l'air. Et j'étudiais aussi, j'avais les professeurs de français, pour la diction française, étaient Madeleine Millot. C'était la femme...
La femme de Darius Milhaud.
Exactement. Et voilà, après ce premier voyage en France, je savais pas que j'allais... 4 ans après la première fois que j'allais venir vivre à Paris.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Barbara Hendricks. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehors, réalisation Jean-Christophe Francis, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.
pardon.